Et à 7h, le journal, c'est avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Reconstruire en 5 ans ce que le feu a dévoré en 5 heures. Le projet de loi spéciale reconstruction de Notre-Dame de Paris devrait apporter de la souplesse pour la réalisation des travaux, y compris sur le plan environnemental. Journée mondiale de la méningite, cette maladie qui tue plusieurs dizaines de personnes chaque année en France, mais dont on connaît parfois mal les symptômes. Les fameuses raideurs dans la nuque, par exemple, ne sont jamais présentes chez les bébés atteints de méningite. Et puis Airbnb cartonne dans les quartiers populaires. Les touristes plébiscitent les hébergements bon marché, notamment en Seine-Saint-Denis, et laissent des avis très positifs sur le site américain.
Europe 1.
Je veux que ce soit achevé d'ici 5 années, nous rebâtirons Notre-Dame plus belle encore. Le défi lancé par Emmanuel Macron est de taille et il fallait bien un projet de loi rédigé en à peine une semaine pour mettre toutes les forces dans la bataille de la reconstruction. La cathédrale bénéficie de dons plus généreusement défiscalisés que d'habitude, 75% de réduction d'impôts pour tous les chèques jusqu'à 1000 euros. Le texte présenté ce matin au Conseil des ministres autorise aussi le gouvernement à légiférer par ordonnance pour aller vite et alléger les contraintes sur le futur chantier. Ève Roger.
Les travaux d'abord pourraient ne pas être soumis au code des marchés publics. Pas besoin, par exemple, de relancer un appel d'offres si le budget d'un chantier explosait. Moins de contraintes aussi liées aux normes environnementales, il pourrait ne pas y avoir d'études d'impact des travaux sur l'environnement. Mais ce qui hérisse le plus certains défenseurs du patrimoine, c'est que Notre-Dame pourrait aussi s'exonérer des règles strictes qui régissent d'habitude les travaux sur les monuments historiques. Ça veut dire moins de procédures, moins d'autorisations, de passages en commission. Ça veut dire aussi qu'il n'y aurait pas forcément un architecte en chef des monuments historiques qui, d'ordinaire, émettra à bord ce que regrette Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne.
Si vous êtes un très très grand architecte contemporain, formidable, travaillé en Australie, au Japon, aux États-Unis, c'est bien, mais quand vous arrivez devant une cathédrale du XIIe siècle, c'est pas votre job parce que vous n'avez pas été formé pour ça. Et les architectes des monuments historiques, ils ont reçu une formation et donc on ne peut pas jeter tout le système par-dessus bord pour faire plaisir à ce calendrier caprice de 5 ans.
Pas besoin de changer la loi, dit-il. La preuve, la pyramide du Louvre est bien sortie de terre, malgré toutes les contraintes liées à la rénovation d'un monument historique.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Notre-Dame de Paris a commencé à être bâchée hier en attendant la construction d'un parapluie géant qui couvrira le futur chantier.
Et d'ici 3 quarts d'heure, l'avis d'un grand architecte français, Denis Valode, il sera notre invité.
Voilà un rapport qui devrait faire beaucoup de bruit. On apprend ce matin que pour la première fois, les forces américaines et afghanes ont tué davantage de civils, 305 morts en 2019, que ne l'ont fait les talibans responsables de la mort de 227 civils. Information donnée par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan.
Europe 1, il est 7h03.
Les jours passent et le bilan des attentats du Sri Lanka est toujours plus lourd.
Oui, la police annonce ce matin le chiffre de 359 morts. Il faut dire que de nombreuses personnes avaient été touchées par des billes d'acier contenues dans les engins explosifs des terroristes. Les attaques de dimanche contre des églises et des hôtels ont été revendiquées par l'État islamique hier. Et même si les autorités sri-lankaises attribuent pour le moment ces attentats à un mouvement djihadiste local, l'implication de Daesh ne fait aucun doute, selon Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste du terrorisme.
Ça en dit long sur la stratégie de l'État islamique qui est de semer son idéologie et ses filières un peu partout dans le monde, en se greffant toujours sur des problématiques bien réelles dans les pays concernés. Ce genre d'attentat, ce n'est pas nouveau au Sri Lanka. Ce qui est nouveau, c'est que ce soit en nom de l'État islamique. Ils se sont appuyés sur une logistique préexistante d'un groupe islamique en attirant des recrues vers leur rang. Et c'est ce qu'ils font partout ailleurs. On découvre qu'ils sont aussi présents en RDC il y a quelques jours, aujourd'hui au Sri Lanka, et on sait qu'aujourd'hui les foyers les plus actifs de l'État islamique, ils sont en Afrique et en Asie du Sud-Est, là où il y a des États faillis, là où il y a des problématiques bien réelles sur lesquelles ils pourront se greffer avec l'aide de groupes locaux qui décident de les rejoindre. Aujourd'hui, ça est partout sur la planète.
Wassim Nasr, journaliste à France 24, auteur du livre « L'État islamique, le fait accompli ». Ce 24 avril est la journée nationale de commémoration du génocide arménien. C'est la première fois cette année que ce jour est ainsi marqué pour le souvenir des quelques 1,5 million d'Arméniens tués par l'armée turque en 1915. Une journée voulue par Emmanuel Macron. On y reviendra après ce journal avec Justin Morin.
C'est une première fausse note dans la campagne de La République En Marche pour les élections européennes.
La tête de liste, Nathalie Loiseau, aujourd'hui centriste, autrefois alliée à l'extrême droite quand elle était à Sciences Po, candidate sur une liste étudiante, comme l'a révélé Mediapart. Une polémique dont elle a eu du mal à se dépêtrer hier. Adrien Beck. Certes, elle avait 20 ans, mais ça la fout mal. Un ministre le reconnaît, la majorité se serait bien passée de cet épisode. Nathalie Loiseau, candidate il y a 35 ans, sur une liste étudiante, aux côtés d'anciens du GUD notamment. Après avoir nié, la tête de liste LREM a finalement reconnu une erreur, puis une vraie connerie, tout en s'en prenant à Mediapart à l'origine de l'information. « Joli climat d'inquisition », a-t-elle écrit sur Facebook. Place ensuite à une vidéo de justification.
« Je porte une liste dont l'objectif, c'est de combattre l'extrême droite. Je déteste tout ce que représente l'extrême droite dans notre pays et en Europe. »
Une réaction en plusieurs temps qui laisse perplexe dans la majorité où l'on juge cette polémique inutile. Un conseiller de l'exécutif s'en agace. Elle n'aurait surtout pas dû réagir, ça n'a fait que remettre un euro dans la machine. C'est là qu'on voit qu'elle n'est pas très politique.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. C'est une maladie redoutée car on la sait foudroyante et parfois mortelle. La méningite a touché plus de 500 personnes en 2017 en France. 62 patients en sont morts, souvent des bébés, des enfants ou de jeunes adultes. Et à l'occasion de la journée mondiale de la méningite aujourd'hui, on se rend compte que les Français connaissent assez mal cette maladie alors qu'il faut réagir très vite. Mélanie Gomez.
Quand on parle de méningite, la majorité des Français cite trois symptômes. Une forte fièvre, des maux de tête et bien sûr une raideur dans la nuque. Mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres, par exemple une sensibilité à la lumière ou de petites taches rouges qui apparaissent sur le corps qu'on appelle purpura. Donc des signes très variés, c'est d'ailleurs le problème avec cette maladie. Dans les premières heures de l'infection, les premiers signes sont d'une grande banalité. Ça peut faire penser à une sorte de grippe, mais surtout, ce que les gens ignorent, c'est que lorsqu'elle touche des bébés de moins d'un an, qui sont 10 fois plus à risque que le reste de la population, il n'y a jamais de raideur dans la nuque, explique Hervé Haas, chef de service des urgences pédiatriques de l'hôpital Laval de Nice.
Les moins de 1 an, ils ont ce qu'on appelle la fontanelle, cette membrane qui est au sommet du crâne et qui fait en quelque sorte soupape. La raideur de nuque, c'est la traduction d'une augmentation de la pression à l'intérieur du crâne liée à la méningite. Mais si vous avez une soupape, cette pression-là, elle va être amortie et vous n'aurez pas de raideur de nuque. Si on attend ça, c'est beaucoup trop tardif.
Enfin, autre problème, 3 Français sur 10 ignorent qu'on peut prévenir cette maladie. Il existe des vaccins qui protègent contre plusieurs types de méningite. 3 d'entre eux sont aujourd'hui d'ailleurs obligatoires pour les enfants nés depuis 2018.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Et dans le journal de 7h30, un témoignage poignant, celui d'une maman qui a perdu sa petite fille de 3 ans et demi atteinte d'une méningite. La maladie l'a emportée en tout juste quelques heures.
Europe 1, il est 7h07.
C'est à la fois l'oxygène de l'économie marseillaise mais aussi ce qui fait tousser ses habitants. Le trafic des bateaux, notamment les ferries et les paquebots de croisière, est responsable d'une très forte pollution de l'air. On a encore en tête la fumée noire sortant des cheminées des navires. Eh bien, une compagnie qui assure des liaisons entre le continent et la Corse est en train de tester un filtre à particules XXL, une première que nous décrit Nathalie Chevance.
Depuis quelques jours, le Piana, navire amiral de la Méridionale, navigue avec un filtre à particules gigantesque qui ressemble à une grosse boîte d'une dizaine de mètres de haut, installée juste à côté des cheminées. C'est là que sont traitées les fumées qui arrivent par des tuyaux d'échappement. Christophe Séguineau, directeur technique de la compagnie.
Ce dispositif permet de traiter des polluants dans les gaz d'échappement comme les oxydes de soufre, mais surtout les particules fines et ultra fines, avec un résultat visuel puisqu'il n'y a plus aucune fumée qui sort des cheminées. Ça n'existe pas sur les bateaux, ça existe dans les usines à terre et on a transposé la technologie et on va la tester sur le bateau dans des conditions différentes d'une usine.
Coût du dispositif, 10 millions d'euros, solution transitoire saluée par Jean-Pierre Hérault, riverain du port qui subit depuis des années la pollution des paquebots.
Une réaction très positive, c'est-à-dire que tous les armateurs aujourd'hui réfléchissent sur tous les moyens qu'ils peuvent avoir pour diminuer la pollution. Après, on serait plutôt favorable de passer du fioul lourd, qui est un fioul hyper polluant, au gaz, qui vraiment serait la meilleure solution.
Mais en attendant la mise en place d'un carburant complètement propre, plusieurs compagnies regardent avec intérêt ce système de filtre à sec des particules fines, testé pendant 6 mois. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Des nouvelles du monde de la finance ce matin avec ces chiffres vertigineux que l'on peut lire dans le journal Les Échos. Les montants des bonus accordés aux salariés les mieux rémunérés de 2 grandes banques françaises. 235 000 euros en moyenne à la Société Générale. 287 000 euros de bonus pour les mieux lotis chez BNP Paribas. Il paraît que ces montants sont en baisse cette année. Dans ces deux banques, 244 personnes ont une rémunération annuelle de plus d'1 million d'euros.
On passe d'un extrême à l'autre et on vous parle de cette étude qui casse les clichés sur les quartiers populaires.
Oui, on pourrait penser que les touristes qui visitent la capitale cherchent des hébergements dans des zones réputées tranquilles. On apprend dans une étude publiée hier et réalisée dans 25 quartiers sensibles partout en France que le site de location d'appartements à la nuit, Airbnb, fonctionne particulièrement bien dans ces secteurs, Vaux-en-Velin, Vénissieux ou encore Sarcelles. Et les touristes en sont même très satisfaits, à contre-courant donc des préjugés. Victor Dolande.
Denis est retraité. Depuis un an, il a mis en location un studio au Bourget. 40 mètres carrés, 4 couchages, un coin cuisine, le tout à 7 minutes de la première gare de RER. Un logement à 50 euros par nuit. À ce prix-là, il affiche complet et ses clients sont ravis.
Ils sont souvent surpris parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Puis ils découvrent que la vie en la Seine-Saint-Denis, elle n'est pas plus désagréable qu'à Paris. Ils viennent avec une appréhension et ils repartent tranquilles. Ils se sentent à l'aise. Là, aujourd'hui, j'ai des Américains. Donc je leur ai mis le drapeau américain et ils étaient hyper heureux.
Jean-Pierre Papin, directeur de l'agence Nouvelle Marge, a mené cette étude. Il a scruté plus de 1000 logements dans les banlieues. Et à plus de 90%, les commentaires laissés par les locataires sur Airbnb sont très positifs.
Les facilités d'accès de ces territoires, leur voisinage avec Paris, hein, un point de chute pour visiter Paris, pour aller aux événements sportifs. Ces quartiers sont à côté de moteurs un peu économiques ou événementiels importants, donc constituent des points intéressants pour un séjour de quelques jours.
Avec les JO de 2024 à Paris en ligne de mire, ces banlieues vont devenir encore plus attractives pour les touristes du monde entier.
Victor Dolande pour Europe.